Chapitre 10. Conséquences. Depuis qu'on l'y avait traîné, Seri n'avait pas quitté la cabine du capitaine. Elle passa les mains dans ses cheveux embroussaillés et tâcha de se rappeler combien de temps s'était écoulé. Elle se força à repasser les événements dans sa tête, mais ses souvenirs étaient épars. Ils bondissaient, sautillaient, les moments de terreur et de souffrance jaillissaient, exigeant son attention alors même qu'elle refusait d'y penser. Elle s'était battue avec le marin qui était venu la chercher. Elle avait voulu s'en aller avec dignité, mais s'en était trouvée incapable. Elle avait résisté, et il avait dû la traîner. Quand elle l'avait frappé, il l'avait simplement soulevé et balancé sur sa large épaule. Il puait. Les coups de pied et de poing qu'elle lançait en se débattant avaient amusé le matelot ainsi que les autres membres de l'équipage qui assistaient à son humiliation. Ses appels à l'aide n'avaient éveillé aucun écho. Les courtisans du gouverneur qui avaient été témoins de son enlèvement n'avaient rien fait. Ceux qui par hasard l'avaient vu avaient affiché des expressions impassibles, s'étaient détournés indifférents à son sort, ou avaient refermé les portes qu'ils avaient entr'ouvertes pour observer. Mais Seri ne pouvait oublier la physionomie de Kosgo et de Keki alors qu'on l'emmenait. Lui souriait triomphalement, content de soi, tandis que Keki, la main traînant sur la cuisse de son compagnon, se secouait de sa stupeur pour regarder, fasciné et émoustillé. Le matelot l'avait emporté dans une partie du navire qui lui était inconnue. Il l'avait poussé dans la cabine obscure du capitaine, puis avait fermé la porte au loquet. Seri ignorait combien de temps elle avait attendu là. Des heures sans doute. Mais comment peut-on mesurer le temps de pareilles circonstances? Elle était passée de la rage au désespoir, puis à la terreur. La peur ne l'avait pas quittée. Quand l'homme était enfin entré, elle était déjà épuisée par les cris, les larmes et les coups qu'elle martelait sur la porte. Lorsqu'il la toucha, elle s'effondra, au bord de l'évanouissement. Rien dans son éducation d'érudite, ni dans son séjour à la cour, ne l'avait préparée à cela. Il eut facilement raison des efforts qu'elle faisait pour le repousser. Entre ses mains, elle n'était qu'un chaton teigneux. Il la viola, sans sauvagerie, avec indifférence. Il eut une exclamation de surprise en découvrant qu'elle était vierge, et il jura dans sa langue, puis il continua à assouvir son plaisir. Cela faisait combien de jours? Elle l'ignorait. Elle n'avait pas quitté la cabine depuis lors. Le temps s'était fractionné entre les moments où l'homme était là et les moments où il était absent. Tantôt il abusait d'elle, tantôt il faisait comme si elle n'existait pas. Il était d'une cruauté impersonnelle. Il ne la remarquait pas. Il ne faisait aucune tentative pour gagner son affection. Il lui montrait le même intérêt qu'il manifestait à son pot de chambre ou à son crachoir. Il ne lui adressait jamais la parole. Elle était là pour son usage quand il lui en prenait l'envie. Si elle rendait les choses difficiles en résistant ou en suppliant, il la frappait. Il donnait des coups d'une main désinvolte, ouverte, sans effort, qui laissait à penser qu'il pouvait être beaucoup plus violent quand il le voulait. Une gifle lui avait ébranlé deux dents, et son oreille avait bourdonné pendant des heures. L'absence de méchanceté quand il cognait était plus effrayante que les coups. Il ne se souciait nullement de faire mal. Au début de sa captivité, elle avait envisagé de se venger. Elle avait fouillé dans la chambre, cherché ce qui aurait pu servir d'arme. L'homme n'était pas d'un naturel confiant. Ses coffres et ses placards étaient fermés à clé et ne prêtaient guère à l'indiscrétion. En revanche, elle découvrit sur son bureau des documents qui confirmèrent ses soupçons. Elle reconnut une carte du port de Terrilville et de la région à l'embouchure du fleuve du désert des pluies. Comme toutes les cartes qu'elle avait vues jusqu'ici, celle-ci comportait de grands blancs. Elle trouva aussi des lettres, mais elle ne lisait pas le chalcédien. Les documents mentionnaient des sommes d'argent et les noms de deux grands nobles jaméliens. Il s'agissait peut-être de renseignements sur la corruption ou d'une police de chargement. Elle remit tout soigneusement en place. Soit elle n'avait pas bien fait le travail, soit la rossée qu'il lui administra ce soir-là avait une autre raison. Quoi qu'il en soit, l'incident étouffa ses dernières velléités de résistance et de vengeance. Elle ne pensait même plus à survivre. Son esprit se retirait et laissait son corps fonctionner seul. Après un certain temps, elle avait appris à finir les restes des repas du capitaine. Il ne mangeait pas souvent dans sa cabine, mais ne lui laissait personnellement ni eau ni nourriture. N'ayant plus de vêtements métables, elle passait le plus clair de son temps recroquevillée en boule dans un coin du lit. Elle ne pensait plus. Quand elle cherchait confusément à sortir de son désarroi, elle ne voyait devant elle que d'atroces éventualités. Penser, c'était avoir peur. Qu'il la tue aujourd'hui, qu'il la livre à l'équipage, qu'il la garde enfermée dans cette cabine pour toujours, toute sa vie, et pire que tout, qu'il la rende au gouverneur comme un jouet cassé qui ne l'amusait plus. Enfin, il pouvait la mettre enceinte. Et alors quoi? Ce présent qu'elle subissait avait irrémédiablement détruit tout avenir. Elle ne voulait pas penser. Parfois, elle regardait par le hublot. Il n'y avait pas grand-chose à voir. De l'eau, des îles, les oiseaux en vol, les petits navires qui les accompagnaient. Parfois, ils disparaissaient pour réapparaître le lendemain, et leur aspect témoignait qu'ils avaient livré bataille. Bois brûlés, voiles déchirées, hommes enchaînés sur le pont. Ils opéraient des descentes dans les colonies hors la loi de la passe intérieure, pillaient et prenaient les captifs pour les vendre comme esclaves. Ils paraissaient bien se débrouiller. Un jour, on arriverait à Terrilville. Quand cette idée lui venait à l'esprit, Ciri avait l'impression de voir une petite lueur briller à travers une fissure. Si elle parvenait à s'échapper, si elle pouvait mettre pied à terre, elle garderait le secret sur son identité et sur ce qui lui était arrivé. C'était très important pour elle. Elle se rétractait à la perspective de continuer à vivre de la sorte. Elle ne pourrait plus être Ciri. Ciri était une savante douce et soignée, une érudite, une dame de la cour, une femme de mots et de pensées. Elle méprisait Ciri. Ciri était trop faible pour résister à cet homme. Ciri avait été trop follement orgueilleuse pour accepter la proposition du gouverneur de coucher avec lui au lieu du Chalcédien. Ciri était trop lâche pour machiner la perte du capitaine ou même la sienne propre. Elle avait beau savoir que Terrilville représentait son ultime espoir, elle était incapable de se concentrer suffisamment pour échafauder un plan de fuite. Une partie essentielle d'elle-même était sinon détruite, du moins en hibernation. Elle se détachait de ses rilles et partageait le mépris des autres pour elle. Son supplice prit fin aussi brusquement qu'il avait commencé. Un matelot ouvrit la cabine un jour et lui fit signe de le suivre. Les mains serrées sur la couverture, elle se recroquevilla sur le lit du capitaine. En se raidissant dans l'attente d'un coup, elle se risqua à demander « Où m'emmenez-vous ?»«
Gouverneur !»
fut l'unique réponse. Soit ils ne parlaient pas leur langue, soit ils jugeaient le mot suffisant. Il désigna la porte de la tête. Elle savait qu'il fallait obéir. Quand elle se leva et s'enveloppa dans la couverture, le matelot ne chercha pas à la lui enlever. La gratitude qu'elle en éprouva lui fit venir les larmes aux yeux. Après s'être assuré qu'elle suivait, il montra le chemin. Prudemment, comme si elle s'aventurait dans un monde inconnu, la couverture bien serrée autour d'elle, Ciri émergea de la chambre. Elle marchait à pas pressés, yeux baissés. Elle voulut regagner son ancienne cabine, mais un cri de son guide la fit se ratatiner. Elle rentra dans le rang et il l'amena chez le gouverneur. Elle s'attendait qu'il frappe à la porte. Elle avait espéré disposer ainsi de quelques secondes pour se préparer, mais il ouvrit à la volée et lui fit signe avec impatience d'entrer. Elle pénétra dans un courant d'air infect et trop chaud. Les remugles du navire se mêlaient aux relents de maladie et de sueur. Ciri se recula, mais le matelot, impitoyable, l'empoigna à l'épaule et la poussa dans la chambre.
« Gouverneur !»
dit-il, et il referma la porte derrière lui. Elle se risqua à avancer dans la pièce étouffante, silencieuse, plongée dans la pénombre. On avait fait un vague ménage. Des vêtements étaient drapés sur les dossiers des sièges au lieu de traîner par terre. Les cendriers des herbes du gouverneur avaient été vidés mais non nettoyés. L'odeur de fumée refroidie saturait l'atmosphère. On avait débarrassé la table des assiettes et des verres, mais on voyait les auréoles poisseuses laissées par le cul des bouteilles. Derrière les rideaux épais du grand hublot, on entendait le bourdonnement d'une mouche entêtée qui se cognait à la vitre. La pièce familière semblait accusée. Céry cligna les yeux. C'était comme si elle s'éveillait d'un mauvais rêve. Comment se faisait-il que cette chambre, avec tout son désordre, existât encore inchangée après tout ce qu'elle, Céry, avait subi? Elle promena un regard autour d'elle, son hébétude cédant peu à peu. Alors qu'elle était prisonnière, qu'elle était violée régulièrement à un pont de distance, la vie avait continué pour le gouverneur et sa suite. Son absence à elle n'avait rien changé pour eux. Ils avaient continué à boire et à dîner, à écouter de la musique et à jouer à des jeux de hasard. Les déchets, la pagaille de leur petite vie tranquille, la mirent soudain en rage. Une force terrible la souleva et déborda. Elle aurait pu fracasser les chaises contre la table, briser le verre épais des hublots et lancer à la mer tableaux, vases et statuettes. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle demeura immobile, à savourer sa furie jusqu'à ce qu'elle en soit entièrement remplie. Ce n'était pas de la force, mais ça en tiendrait lieu. Elle avait cru la pièce vide. Alors, elle entendit un grognement qui provenait du lit défait. Serrant toujours la couverture autour d'elle, elle s'approcha, l'air majestueux. Le gouverneur était là, dans un monceau de draps, le visage pâle, les cheveux plaqués sur le front par la sueur. L'odeur de la maladie flottait, lourde, autour de lui. Une couverture jetée par terre puait le vomi et la bile. Alors qu'elle baissait le regard sur lui, il ouvrit les yeux. Il cligna ses paupières encollées de châssis, puis sembla se concentrer sur elle.
« Céry, chuchota-t-il, tu es revenu. Ça, sois loué, je suis en train de mourir, j'en ai peur. »
« Je l'espère bien !» Elle prononça chaque mot distinctement en le dévisageant. Il se ratatina sous son regard. Il avait les yeux caves et injectés de sang. Les mains crispées sur la couverture tremblaient. Avoir vécu tous ces jours dans la peur et découvrir que l'homme qu'il avait livré à ce sort était à présent souffrant et décharné, quelle ironie! Dans sa maladie, son visage émacié avait fini par ressembler à celui de son père. Cette ressemblance la frappa douloureusement et la fortifia tout à la fois. Elle ne serait pas ce que Kosgo avait voulu faire d'elle. Elle était plus forte que cela. D'un geste brusque, elle se dépouilla de sa couverture. Elle alla nue jusqu'à la garde-robe et en ouvrit les portes avec violence. Elle sentit ses yeux sur elle. Peu lui importait désormais. Et c'était sa vengeance. Elle se mit à sortir les vêtements qu'elle jeta par terre, à la recherche de quelque chose de propre qu'elle pourrait revêtir. La plupart des habits sentaient la fumée des drogues et le parfum, mais elle finit par trouver d'amples culottes blanches et une chemise de soie rouge. Les culottes étaient trop larges pour elle, elle les ceintura d'une fine écharpe noire. Un gilet brodé couvrit ses seins plus convenablement. Elle prit une brosse, en retira les cheveux et entreprit de remettre un peu d'ordre dans ses mèches sales. Elle brossa jusqu'à s'érafler le cuir chevelu comme si elle avait pu par là abolir le contact du chalcédien. Kosgo l'observait d'un air morne et consterné.
« Je t'ai fait appeler, » dit-il faiblement, « quand Keki est tombé malade. Alors plus personne ne s'occupait de moi. On s'est tellement amusé avant que tout le monde tombe malade si vite. Le seigneur Durdan est mort juste après notre jeu, un soir. Et puis les autres ont commencé à être atteints aussi. »
Il baissa la voix.
Je soupçonne qu'on nous a empoisonnés. Personne de l'équipage n'est touché, seulement moi et ceux qui me sont fidèles. En plus, le capitaine n'a pas l'air de s'en soucier. Ils m'ont envoyé des serviteurs, mais beaucoup sont malades et les autres sont des imbéciles. J'ai essayé tous mes remèdes, mais rien ne me soulage. Je t'en prie, Séri, ne me laisse pas mourir. Je ne veux pas qu'on me jette par-dessus bord comme le seigneur Durdan.
Elle se fit une tresse, puis s'examina dans le miroir, en se tournant d'un côté puis de l'autre. Sa peau s'était distendue. Sur un côté, les bleus commençaient à disparaître. Elle avait une croûte de sang séché dans une narine. Elle ramassa une chemise par terre et s'y essuya le nez. Puis elle regarda à nouveau son reflet. Elle ne se reconnut pas. On aurait dit qu'un animal apeuré et furieux se tapissait derrière ses yeux. Elle était devenue dangereuse. Voilà ce qui avait changé. Elle lui jeta un coup d'œil.
« Et pourquoi m'en soucierais-je? Vous m'avez livré à lui, comme un os qu'on jette à un chien. Et maintenant, vous comptez que je vais m'occuper de vous ?»
Elle se tourna pour lui faire face et le regarda droit dans les yeux.
« J'espère bien que vous allez mourir. »
Elle détacha lentement les mots, désireuse de lui faire comprendre qu'elle était parfaitement sérieuse.
« Tu ne peux pas souhaiter ça !»
gémit-il.
« Je suis le gouverneur. Si je meurs sans héritier, Jamélia va sombrer dans le chaos. Le trône de Perle n'a jamais été vacant durant 17 générations. »
« Il l'est maintenant, »
fit-elle remarquer d'une voix suave. « Et quelle que soit la façon dont les nobles se débrouillent aujourd'hui, ils se débrouilleront de même quand vous serez mort. Peut-être qu'ils ne s'en apercevront même pas. » Elle traversa la pièce et s'approcha des coffrets à bijoux. Les joyaux plus précieux devaient se trouver dans les coffrets les plus solidement bouclés. D'un geste désinvolte, elle souleva au-dessus de sa tête une boîte sculptée et la lança sur le sol. L'épais tapis sur le plancher amortit la chute. Elle n'allait pas s'abaisser à recommencer. Elle se contenterait d'or et d'argent. Elle ouvrit au hasard une autre boîte, choisit des boucles d'oreilles et un collier. Il l'avait congédiée comme une de ses créatures. Il allait payer pour ce qu'il lui avait fait, et de maintes façons. Ce qu'elle prenait aujourd'hui pourrait bien être sa seule source de richesse quand elle le quitterait à Terrilleville. Elle empila des bagues à ses doigts et attacha une lourde chaîne d'or à sa cheville. Elle n'avait jamais porté autant de bijoux. Il lui faisait presque une armure. Maintenant, elle exhibait sa valeur à l'extérieur au lieu de l'enfermer à l'intérieur. Cette pensée ralluma sa colère.
« Que veux-tu de moi ? »
demanda-t-il impérieusement. Il essaya de s'asseoir, mais retomba en arrière en gémissant. Le ton n'était plus impérieux. Il pleurnicha.
« Pourquoi me hais-tu ainsi ? »
Il paraissait si sincèrement incrédule qu'elle répondit de but en blanc.
« Vous m'avez livré à un homme qui m'a violé régulièrement. Il m'a battu. Vous avez agi délibérément. Vous saviez ce que je subissais. Vous n'avez rien fait. Jusqu'à ce que vous ayez besoin de moi, vous ne vous êtes pas soucié de ce que je devenais. Vous vous en amusiez. »
« Je ne vois pas que tu en aies beaucoup pâti, »
déclara-t-il sur la défensive.
« Tu marches et tu parles et tu es toujours aussi méchante avec moi. Vous, les femmes, vous en faites des histoires. Après tout, c'est la nature. Tu as été faite pour cela, mais tu me l'as refusée. »
Il tirailla avec irritation sur sa couverture et marmonna.
« Le viol n'est qu'une idée créée par les femmes pour faire croire que l'homme leur vole ce qu'elles ont en quantité inépuisable. Le mal n'est pas irrémédiable. » « La plaisanterie était un peu brutale, j'en conviens, et y réfléchis, mais je ne mérite pas de mourir pour autant. »
Il se tourna face à la tête de lit.
« Quand je serai mort, tu en verras sans doute bien d'autres. »
ajouta-t-il avec une satisfaction puérile. Seule la justesse de sa dernière remarque empêcha Seri de le tuer à ce moment-là. La profondeur de son mépris ne connut soudain plus de bornes. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Pire, il semblait incapable de le comprendre. Il était inconcevable qu'il pût être le fils de ce gouverneur sage et doux qu'il avait élevé au rang de compagne. Elle réfléchit aux moyens d'assurer sa propre survie. Il lui fournit étourdiment la solution.
« Il faut que je te fasse des cadeaux, je suppose, que je te couvre d'honneur, que je t'achète pour que tu prennes soin de moi, »
pleurnicha-t-il. « Exactement, » confirma-t-elle d'une voix froide. Elle serait la plus chère de toutes les femmes qu'il avait prostituées. Elle alla à un bureau qui était solidement fixé à la tête du lit. Elle le débarrassa des vêtements et d'une assiette de friandises moisies qui l'encombraient, prit du parchemin, une plume et de l'encre, puis tira une chaise pour s'asseoir. Son corps endolori protesta au changement de position. Elle hésita, sourcils froncés. Puis, elle alla à la porte, l'ouvrit à toute volée. Le matelot de service la regarda d'un air interrogateur.
« Le gouverneur réclame un bain, » dit-elle sur un ton tranchant. « Faites apporter sa baignoire avec des serviettes propres et des seaux d'eau chaude, et en vitesse !»
Elle referma la porte avant qu'il ait pu réagir. Elle revint au bureau et saisit la plume.
« Oh, je n'ai pas envie d'un bain chaud, je suis bien trop épuisée. Tu ne peux pas me laver dans mon lit. »
Peut-être lui laisserait-elle son eau quand elle en aurait fini elle-même.
« Taisez-vous, je voudrais réfléchir. »
Elle ferma les yeux un instant, se recueillit.
« Que fais-tu ? »
demanda le gouverneur Kosgou.
« Je rédige un document que vous allez signer. Taisez-vous. »
Elle pesait les termes. Elle inventait pour elle une nouvelle charge. Envoyée permanente du gouverneur à Terrilville. Il lui faudrait un salaire, une allocation pour des appartements convenables, ainsi que des domestiques. Elle inscrivit une somme généreuse sans être exagérée. Combien de pouvoirs devait-elle s'arroger ? Se demandait-elle en écrivant avec fluidité sur le parchemin.
« J'ai soif !»
murmura-t-il d'une voix rauque.
« Quand j'aurai fini et que vous aurez signé ceci, alors je vous donnerai de l'eau, »
dit-elle posément. En fait, il ne lui paraissait pas gravement malade. En su d'une indisposition réelle, il souffrait probablement du mal de mer, d'un excès de vin et d'herbe à plaisir. À cela s'ajoutait la défection des serviteurs et des serviles compagnes, et le voilà qui se croyait mourant. À merveille ! Qu'il le croie ! Cela faisait parfaitement son affaire. La plume s'arrêta un instant en plein vol, Seri inclina la tête en réfléchissant. Il y avait des émétiques et des purges dans les réserves de remèdes qu'il avait apportées. En lui prodiguant ses soins, peut-être pourrait-elle veiller à ce qu'il ne se rétablisse pas trop promptement. Elle avait besoin de lui vivant, mais seulement jusqu'à Terrilville. Elle reposa sa plume. « Et si je prenais le temps de vous préparer un remède ?» déclara-t-elle gracieusement.
Vous venez d'écouter « Les aventuriers de la mer », tome 5, « Prison d'eau et de bois » de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David Maresco, lu par Vincent Deboire.